Merci d'écouter RFI, les Midis à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à tous. Dans l'actualité, le Premier ministre canadien Mark Carney sort vainqueur des élections législatives. Il l'emporte après avoir fait campagne contre Donald Trump. Toutefois, le dépouillement n'est pas fini. Les libéraux pourraient échouer de peu à décrocher la majorité absolue au Parlement. Après la coupure géante d'hier, l'électricité est maintenant quasiment rétablie en Espagne et totalement au Portugal. D'après les premiers éléments à sa disposition, l'opérateur du réseau espagnol exclut l'hypothèse d'une cyberattaque. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirs de drones qui auraient fait au moins 3 morts la nuit dernière. Football, Arsenal, Paris Saint-Germain pour une place en finale de la Ligue des Champions. Match aller ce soir à Londres. L'électricité a donc maintenant été rétablie dans la quasi-totalité de l'Espagne et du Portugal. On assiste à un retour à la normale progressif dans ces deux pays, touchés hier par une coupure géante. Sa durée exceptionnelle a été de 10 voire 20 heures selon les régions. Hier soir, dans les villes d'Espagne, le retour du courant a souvent été accompagné d'applaudissements et de cris de joie après une longue journée sans électricité, mais aussi le plus souvent sans transport, ni internet, ni téléphone. Hier, une partie du sud de la France a elle aussi été affectée, mais brièvement. Il faut savoir que l'interconnexion des réseaux en Europe peut expliquer un effet contagieux entre plusieurs pays. Écoutez sur ce point un spécialiste, Mathieu Bineau, directeur général de Voltalis, c'est le leader en Europe de la flexibilité des réseaux électriques. Il évoque un effet domino.
Comme tous les systèmes sont interconnectés entre eux, si vous avez un problème à un endroit, une ligne qui est en difficulté, qui doit être arrêtée à cause d'un incident climatique, l'électricité qui est produite doit passer ailleurs. Mais si le reste des tuyaux est trop petit, on se met à saturer le système, ça se déverse encore ailleurs, qui à nouveau se retrouve saturé, etc., etc. Et vous avez un effet domino, qui est sans doute ce qui s'est passé à l'échelle de la péninsule ibérique. Les pays sont solidaires entre eux, et d'ailleurs ça nous rend en permanence service, parce que ça permet dans les deux sens de s'entraider face aux pics de consommation ou aux pics de production, parce que chaque pays n'a pas les pics au même moment. Tout le monde est à tour de rôle, exportateur et importateur. Évidemment, la difficulté de l'Espagne, c'est comme c'est une péninsule, il n'y a pas beaucoup de lignes qui la relient au reste de l'Europe, et donc elle est moins protégée contre ce genre d'aléa que l'Europe continentale.
Explication de Mathieu Bineau, recueillie par Anne Verdaguer. L'électricité est maintenant quasiment rétablie en Espagne et totalement au Portugal. D'après les premiers éléments à sa disposition, l'opérateur du réseau espagnol exclut l'hypothèse d'une cyberattaque hier. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirs de drones explosifs. Ils auraient fait la nuit dernière au moins 3 morts, dont 2 dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Les violences continuent avant une hypothétique trêve. Vladimir Poutine a décrété 3 jours de trêve du 8 au 10 mai à l'occasion des célébrations de la victoire russe contre l'Allemagne nazie. Les funérailles du pape François ce week-end se sont transformées en sommet officieux sur l'avenir de l'Ukraine. De multiples échanges ont eu lieu entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Keir Starmer et Emmanuel Macron. Tous ces leaders s'étaient déplacés, contrairement à Vladimir Poutine. Dans une interview à l'hebdomadaire Paris Match, le président français révèle en partie la teneur des discussions et le plan qu'il aimerait voir mis en place prochainement. Les explications d'Aurélien Devernoy.
Les images ont déjà fait le tour du monde. Donald Trump et Volodymyr Zelensky assis sur des chaises posées dans un hall du Vatican et les dirigeants américains et ukrainiens menant en conciliabule avec Emmanuel Macron et Keir Starmer. L'aboutissement, selon le président français, d'intenses tractations avec un sentiment côté Emmanuel Macron, celui d'avoir convaincu les Américains de la possibilité d'une escalade des menaces et potentiellement de sanctions pour pousser les Russes à accepter le cessez-le-feu. Le chef de l'État affirme espérer un accroissement de la pression sur Moscou dans les 8 à 10 jours, y compris de la part des États-Unis, le but recherché par les Européens, selon Emmanuel Macron, qui se félicite du duo formé avec le Premier ministre britannique. Mais le président français se montre toutefois prudent, il appelle implicitement Washington à impliquer réellement et directement les Européens dans les prochaines discussions. Il faut que nous soyons là et que nous défendions nos intérêts, explique-t-il. C'est donc en porte-parole, voire en leader de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron s'avance, mais encore faudra-t-il entraîner les 27, d'où l'importance selon lui de ses prochaines rencontres au programme, le 7 mai à l'occasion de la première visite en France du chancelier allemand, puis de celle du Premier ministre polonais 2 jours plus tard.
Aurélien Devernoy du service politique. Au Canada, comme prévu, les élections législatives vont tourner à l'avantage du camp libéral et anti-Trump, camp emmené par l'actuel Premier ministre Mark Carney. L'ancienne relation avec les États-Unis est terminée, a déclaré le vainqueur, promettant de ne jamais oublier la trahison américaine et de triompher des États-Unis dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Le vainqueur des élections revient de loin. Il y a quelques mois encore, en effet, la voie semblait toute tracée pour permettre aux conservateurs canadiens de revenir aux affaires. Le dépouillement est encore en cours dans certaines régions. Les libéraux pourraient échouer de peu à décrocher la majorité absolue au Parlement. Ils se verraient alors contraints de gouverner avec l'appui d'un autre parti. La traque engagée par l'Inde pour retrouver les auteurs de l'attentat meurtrier au Cachemire indien la semaine dernière, cette traque se poursuit, de même que les escarmouches à la frontière entre soldats pakistanais et indiens. Ce regain de tension fait suite à l'attaque terroriste contre des touristes. Dans ce contexte, de nombreuses images détournées circulent sur les réseaux sociaux, ajoutant à la confusion, Grégory Genevrier.
Oui, à en croire des centaines de publications mensongères diffusées sur les réseaux sociaux, l'Inde et le Pakistan seraient entrés en guerre ouverte. Des internautes affirment par exemple, photo à l'appui, qu'un poste frontière indien aurait été bombardé par l'armée pakistanaise. Sauf que c'est faux, le cliché montrant une colline ravagée par les flammes a en réalité été pris en Irlande du Nord, dans les montagnes de Mourne, le 17 mars dernier. Une autre infox virale prétend cette fois documenter la destruction d'un immeuble pakistanais par l'armée indienne. La vidéo impressionnante montre l'édifice s'effondrer suite à une explosion. Mais une nouvelle fois, ces images sont sorties de leur contexte. Grâce à une recherche par image inversée, on sait que cette vidéo a été filmée à Beyrouth, au Liban, lors d'un bombardement de l'armée israélienne en novembre dernier. Ce type d'image détournée se compte actuellement par dizaines et cumule des millions de vues. Une désinformation dangereuse qui radicalise des esprits déjà bien échauffés par les tensions en cours entre les deux pays voisins.
Grégory Genevrier de la cellule Infovérif de la rédaction. En Iran, il a fallu aux pompiers presque 3 jours de lutte pour maîtriser l'incendie qui a ravagé le principal port du pays. Selon les autorités, le feu s'est déclaré samedi suite à une explosion attribuée à une négligence. La catastrophe a fait au moins 70 morts et des centaines de blessés. En France, un ancien rebelle syrien, Majdi Nema, comparé depuis ce matin devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour complicité de crimes de guerre commis dans son pays entre 2013 et 2016. L'homme âgé aujourd'hui de 36 ans conteste les accusations. Il affirme n'avoir eu qu'un rôle limité au sein de son groupe salafiste qui prônait la charia, qui combattait le régime syrien. Plus de 1500 actes antisémites ont été recensés l'an dernier en France. En 2023, il y en avait eu 1600. Un rapport sur l'antisémitisme a été transmis au gouvernement. Il confirme la résurgence de ces actes depuis les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël et la guerre à Gaza qui a suivi. Pour lutter plus efficacement, le rapport met l'accent sur 2 volets, l'OECAL, l'éducation et la justice.
C'est chez les jeunes que les actes antisémites seraient les plus nombreux. Alors le premier remède, c'est la pédagogie. Marianne Matar-Bonucci est professeure d'histoire et pilote le groupe de travail sur l'éducation.
Concrètement, ce serait une transformation des programmes scolaires, d'inscrire justement l'histoire de l'antisémitisme dans la longue durée pour parler de sa matrice religieuse, pour parler de ses transformations successives jusqu'à ses réalités contemporaine.
Si la formation des élèves est essentielle, celle des professeurs l'est également.
Nous préconisons la mise en place d'un institut de formation adossé à la recherche sur les enjeux d'antisémitisme et de racisme.
Le deuxième groupe de travail s'est penché sur le renforcement des sanctions. L'avocate et présidente de l'organisation juive européenne Muriel Waknin-Melki souligne l'importance de condamner l'amalgame entre religion juive et soutien à la politique du gouvernement israélien.
Toutes les fois où vous allez au lieu d'injurier une personne de sale juif ou de sale juive, vous allez la traiter de sale sioniste, par exemple. Il n'y a pas lieu, il n'y a plus lieu, en fait, de tergiverser. Elle doit être jugée de la même manière.
Concernant la lutte contre l'antisémitisme à l'université, une loi doit être présentée à l'Assemblée nationale dans les prochains jours.
C'était l'OECAL. Enfin, en football, le pari du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vise une finale en Ligue des Champions, 5 ans après la première perdue contre le Bayern Munich. La qualification passe par un bon résultat ce soir à l'Emirates Stadium sur la pelouse d'Arsenal. Le club londonien invaincu chez lui depuis 2 saisons dans cette compétition. Arsenal-Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 21h, 19h TU. Match à suivre en intégralité sur RFI. Dans l'immédiat, 8 milliards de voisins avec vous. Emmanuel Bastide, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau et merci à vous.